Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Alors on continue cet après-midi, donc deuxième émission réalisée dans le cadre du cours Écrire sur le web WE1 à l'UTC, donc qui va être l'émission va être réalisée donc par des étudiants et étudiantes de ce cours. Pour rappel très rapide, en WE1, on découvre le web à la fois sous l'angle technique, théorique, méthodo et autour des questions éthiques, on va dire, et culturelles que l'on peut se poser autour du web. Par exemple, aujourd'hui, en cours, on a parlé surveillance, capitalisme de surveillance. Les étudiantes et étudiantes qui ont travaillé ce semestre en groupe, donc là, ils sont quatre avec moi dans le studio, ont produit un site web sur lequel il y a un article, des fiches de lecture et une ou plusieurs interviews. Et donc, ils vont ici nous présenter une synthèse de ce travail. Donc, je suis dans le studio avec Léo Ancien. Bonjour Léo.
Bonjour.
Elliot Malser.
Bonjour.
Baptiste Michelet.
Bonjour.
Et Chloé Soulard.
Bonjour.
Donc bonjour à tous les quatre. La première partie, on va donc démarrer avec Léo qui va nous parler support numérique, révolution cognitive et raison computationnelle. À toi Léo.
Alors oui, donc ma première partie portera donc sur la théorie du support et la révolution cognitive, avec comme principale question en quoi les supports utilisés pour la transmission de connaissances conditionnent-ils nos apprentissages de ces dernières. Donc pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser au livre « Le sens de la technique, le numérique et le calcul » par Bruno Bachimon, paru chez Encre Marine en 2010. Selon l'auteur, nous avons aujourd'hui une nécessité de s'interroger sur le couplage support-connaissance. C'est la question de la genèse de la connaissance à partir de supports, qu'ils soient donc oral, écrit ou numérique, qui est posée. Toutes nos connaissances possèdent une genèse technique via les systèmes d'écriture. Ceci implique que la nature de ces systèmes d'écriture, et du support donc plus en général, conditionne nos interprétations et significations des connaissances sur un sujet. Effectivement, nous n'allons pas traiter une information de la même manière si elle nous est énoncée oralement plutôt qu'écrite, par exemple. Et un autre exemple proposé peut-être, le tableau, qui est un mode de représentation de la connaissance typiquement écrit et qui n'a pas son équivalent à l'oral. L'auteur stipule que nos manières de penser aujourd'hui sont étroitement liées à nos manières d'écrire et d'inscrire. Ceci est dû aux révolutions cognitives qui ont été le passage de l'oral à l'écrit et de l'écrit par la suite de l'écrit au numérique. Donc par exemple, il n'existerait pas de mathématiques sans écriture et des procédés de représentation de l'information comme le défilement infini sur un média social qui sont propres au numérique. Donc cette théorie que Bachimon décrit, il l'appelle la théorie du support. Donc selon lui, le point essentiel de cette théorie repose sur le support en lui-même. Par support est sous-entendu un support d'inscription, donc un système d'écriture ou un support numérique par exemple. Et les propriétés matérielles du support d'inscription vont influer sur notre manière de percevoir l'information. Le support est composé de deux aspects. D'une part, nous avons ce que l'auteur appelle le substrat matériel, c'est-à-dire tout ce qui va servir à inscrire la connaissance. Donc pour un système d'écriture, par exemple, il s'agit du papier et de l'encre. Et d'autre part, nous avons les formes matérielles inscrites dans le support, correspondant entre guillemets au code du support, et qui doivent être en adéquation avec les différentes propriétés de ce dernier. Donc par exemple, un tableau rempli d'informations sur une feuille. L'auteur emploie le terme de révolution cognitive à plusieurs reprises dans son ouvrage. Donc, lors du passage de l'oral à l'écrit, ceci n'a pas seulement induit un changement de support pour stocker nos connaissances, mais une révolution cognitive. Nous avons assisté à une naissance d'une raison graphique, c'est une représentation spatiale de l'information de par sa permanence dans le temps. Cette dernière permet de construire de nouveaux concepts. Un bon exemple pour illustrer ces propos est la création des mathématiques avec l'écriture, qui ont amené à la science et ensuite au monde moderne que nous connaissons avec toutes ces technologies. Et finalement, lors du passage de l'écrit au support numérique, l'auteur emploie également la notion de raison computationnelle. Nous vous proposons à présent un court extrait d'un cours donné par Bruno Bachimon à l'UTC en 2014, disponible sur YouTube et portant sur la raison graphique et computationnelle.
Alors, les principes qui font qu'on peut comprendre et essayer de comprendre ce qui se passe avec l'informatique, le calcul, c'est de le mettre en regard avec un autre outil intellectuel qui l'a précédé, qui est l'écriture. Et donc, si on comprend et on essaie d'analyser en quoi l'écriture fait rupture, notamment à la suite de Jacques Goudy et puis des historiens de l'écriture, etc., qui ont beaucoup travaillé cette question, c'est de montrer que l'écriture, en changeant notre rapport au contenu, l'instrumentation matérielle qu'on a à avoir de nos contenus, pouvait modifier nos manières de penser, et non seulement manières de penser, mais également les concepts même de la structuration de la pensée. Donc ce ne sont pas uniquement des postures d'usage, mais ce sont littéralement des postures cognitives qui se mettent en place avec ce mode d'instrumentation. Donc un peu, c'est un peu ce qu'on avait évoqué à un moment donné quand Bernard était à Compiègne, d'ailleurs, la théorie du support, c'est le fait de dire que la matérialité du support est un conditionnement de la signification qu'il peut prendre et qu'il donne à ce qu'il supporte, c'est-à-dire aux matériaux graphiques quelconques qu'il peut accueillir en tant que support. Et donc la rationalité, en quelque sorte, est conditionnée par son instrumentation. Donc ça vient à dire dans ses prolongations philosophiques, c'est une thèse assez dure, c'est qu'il ne peut pas y avoir de pensée pure. Il y a toujours forcément un support sous-jacent qui va venir conditionner la signification véhiculée par ce support.
Donc je vais à présent vous faire ma deuxième partie, donc, qui porte sur le support numérique et la raison computationnelle, avec comme principale problématique comment l'émergence du numérique a changé notre manière d'apprendre et quels sont les enjeux associés. Donc le support numérique est présenté comme étant à la fois une continuité de nos systèmes d'écriture, tout en étant également une rupture de ceux-ci. Nous avons affaire à de nouveaux moyens en termes de calcul, d'information et de virtualisation. Ceci implique une reconfiguration de nos principes cognitifs, donc de notre façon de raisonner, de penser le monde, ainsi que de nouvelles formes de représentation des informations basées sur le calcul, comme par exemple le réseau dans la raison computationnelle qui vient remplacer le tableau dans la raison graphique. Et donc le réseau, c'est en quelque sorte un tableau dynamique qui permet de faire le lien entre les différentes cases du tableau. Donc Bruno Bachimon propose, pour qualifier cette culture émergente de la mobilisation des technologies numériques, de la nommer raison computationnelle, autrement dit ce que fait le numérique à notre façon de penser. Il écrit, page 155, je cite, « Le numérique devient le langage du monde pour l'exprimer et pour y intervenir. » Donc, l'enjeu de la raison computationnelle est donc de déterminer par quels moyens inscrire les informations sur ce support numérique afin d'en déceler les nouvelles structures d'inscription pertinentes. En effet, nous pourrions évoquer par exemple la masse d'informations qui fait qu'on ne lit plus mais qu'on bookmark, le copier-coller, l'écriture collaborative, les articles qu'on ne like que sur la base du titre et de la réputation de celui qui poste, etc. L'auteur effectuait également un parallèle entre la raison graphique et computationnelle en employant une comparaison intéressante. Donc page 170, il écrit « Si la taxinomie, donc la taxinomie c'est une branche des sciences naturelles qui a pour objet l'étude de la diversité du monde vivant, donc si la taxinomie des espèces peut être une illustration de la pensée induite par la raison graphique, le code génétique est celle de la pensée induite par la raison computationnelle. » Donc nous allons à présent mettre en perspective tous ces dires. Donc le numérique ouvre la porte à de nouvelles connaissances et donc par conséquence de nouvelles manières de penser. Mais l'émergence de cette nouvelle ère implique également de nouvelles questions à se poser. En effet, le calcul, qui est l'élément clé de la raison computationnelle, est abstrait, difficile à appréhender humainement. En plus de cela, nous tendons vers une augmentation des puissances et vitesses de calcul des machines matérielles qui les exécutent, ce qui les complexifie énormément, notamment d'un point de vue du nombre de données mobilisées, ainsi que du nombre de calculs élémentaires réalisés, les rendant par conséquent encore plus difficiles à comprendre. Ainsi, il devient quasiment impossible de comprendre les étapes calculatoires intermédiaires menant à un résultat, et donc ce résultat ne peut être entièrement saisi par l'utilisateur, ni même dans certains cas par les humains qui ont programmé les logiciels qui font les calculs. Nous pourrions également trouver une limite à la raison computationnelle, et même au numérique plus généralement. Le fait d'augmenter sans cesse les puissances et vitesses de calcul, le nombre de données mobilisées, etc., nécessite de devoir concevoir des ordinateurs encore plus puissants, et donc de continuer à extraire un grand nombre de métaux toxiques présents dans les ordinateurs, extraction qui, dans la majeure partie des cas, est réalisée dans les pays pauvres, parfois par des enfants, mais également de devoir construire encore plus de data centers qui contribuent à la pollution. Et donc un problème potentiel pourrait être qu'une civilisation qui ne sait plus penser sans informatique risquerait d'avoir plus de soucis en cas de problèmes technologiques dans le futur, tels que par exemple une discontinuité de l'électricité ou un problème d'approvisionnement en composants électroniques, par exemple.
Merci beaucoup de cette première partie. Léo, tu fais le lien là, dans la toute fin, dans ta conclusion, avec ce que l'on abordera dans le dernier cours de WE1 autour des questions de technicisation et numérique, donc avec la présence de Pierre Larocca. Une question que je te propose, c'est que tu nous as parlé du fait que la raison computationnelle modifie les façons de penser, les façons que l'on a d'agir avec les outils numériques. Est-ce que tu as un ou deux exemples complémentaires en tête ? Tu nous en as donné quelques-uns, mais peut-être dans le domaine qui nous rassemble ici tous les deux, c'est-à-dire le domaine de l'enseignement. Est-ce que, à ton avis, ça change la façon d'enseigner que les profs adoptent ou d'apprendre, par exemple, pour les étudiants français ?
Alors oui, bien sûr. Donc, on pourrait parler par exemple du rapport à la prise de notes des étudiants ou même des professeurs. Hein. Donc il y a certains professeurs maintenant qui utilisent des TBI, donc les tableaux informatiques, et également beaucoup d'étudiants qui se mettent de plus en plus à utiliser les tablettes avec des stylets donc, pour prendre les notes. Et donc on a aujourd'hui une dématérialisation de l'information avec ces tablettes et ces stylets. Et donc les étudiants aujourd'hui n'ont plus vraiment besoin d'avoir tous leurs cours sur lui. Enfin, pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter ce genre d'équipement, évidemment. Et donc, il y a un accès qui est plus facile, à l'information directement via la tablette et non via tous les cours qu'il faut acheter et qu'il faut à chaque fois avoir dans son sac, etc. Et on pourra également parler potentiellement de Parcoursup. On va en parler un petit peu plus en détail après dans d'autres parties, mais Parcoursup donc, qui modifie la manière de sélectionner les étudiants et qui est plus optimisé pour les étudiants et les universités, avec peut-être une simplification des démarches, mais aussi qui est moins personnelle, avec des incompréhensions de certaines affectations des étudiants qui se plaignent de leurs affectations, tout simplement, par exemple.
Oui, et puis sur Parcoursup, hein, on pourrait en faire une émission complète, mais j'ai vécu ici la façon dont ça a changé les modes de recrutement à l'UTC, notamment puisque les temporalités ont changé, et donc effectivement l'UTC en quelque sorte a dû décider de s'adapter aux contraintes techniques, algorithmiques qui ont été posées par cet outil. Donc ça nous fait effectivement une petite illustration. Merci beaucoup à toi. Donc Elliot, je vais te passer la main à présent pour une seconde partie et tu vas nous parler techno-pouvoir et techno-capitalisme. À toi la main.
Du coup, comme l'a bien dit Léo, il y a eu une évolution des supports, notamment le support numérique, qui nous a ouvert la porte à de nouveaux savoirs et de nouvelles façons de penser. Et l'avènement de l'informatique a donné naissance à un technopouvoir. Éric Sadin, l'auteur que j'ai pu étudier, le décrit comme la manière dont les démocraties collectent les données publiques, qu'elles communiquent ensuite à des industriels privés. En outre, il évoque ce qu'il nomme la collusion du régime politique avec le monde techno-industriel. Pour résumer, on pourrait alors dire que c'est le techno-pouvoir, c'est le contrôle de nos données par les géants du numérique, comment ces entreprises privées arrivent à les récupérer et ce qu'elles en font. De nos jours, nos moyens de communication ont changé avec le numérique. L'avènement de Facebook est l'exemple parfait. Avec presque 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, nous utilisons les outils qui nous sont fournis par ce groupe pour communiquer, partager, se divertir au quotidien. Nos données ainsi créées sont récoltées et sont ainsi aux mains de ce géant. On peut alors parler de contrôle du web. Imaginez le pouvoir de celui qui connaît des informations parfois sensibles sur les habitudes, les goûts, même les localisations de plus de 3 milliards de personnes. Il a fallu de nombreux ingénieurs informaticiens pour l'élaboration des algorithmes, des applications et des outils numériques. Ils sont devenus au fur et à mesure une élite à qui appartient le technopouvoir. Mais comme nous disait M. Bachimon pendant l'interview réalisée par nos soins avec Léo Ancien ce lundi même, je cite, « Nous sommes passifs face à ce nouvel ordre. La grande majorité d'entre nous l'accepte. » Or, à force de vouloir suivre l'utopie des informaticiens, nous nous éloignons de la notion de jugement que n'a pas la machine. Et parfois, ça peut nous arranger de remettre le pouvoir politique aux mains de la machine, ne pas réfléchir aux solutions. Par exemple, Parcoursup, ces décisions sont des choix politiques qui sont pourtant présentés comme des questions purement techniques. Victor Dermio, conseiller de la présidente de la CNIL, se demande ainsi assez naïvement, je cite, si la tentation ne pourrait pas être grande pour des responsables politiques, publics, de se cacher derrière l'algorithme pour échapper à la fatigue d'avoir à faire des choix, de prendre des décisions et de les assumer. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter un extrait de Éric Sandin parlant de la responsabilité des ingénieurs.
La part de l'ingénieur au sens large, le développeur, le programmeur, le codeur, que je souhaiterais évoquer aujourd'hui, et sa part de responsabilité et les incidences aujourd'hui que les développeurs, par leur production, par leur savoir, produisent sur la société. Alors, l'avènement de l'Internet au milieu, à la fin des années 90, qui a donné ce qui a été nommé de façon assez synthétique l'âge de l'accès, hein, qui a rendu possible l'accès justement à une infinité, à un volume de corpus sans cesse croissant, iconique, enfin textuel, iconique, sonore, hein, eh bien, a donné, imprimé une image radieuse au numérique, rendant possible aussi des jeux de communication entre individus à des coûts marginaux et l'accès, pour dire rapidement les choses, à tous les savoirs du monde. Et bien, cette dimension-là de ce qui a été nommé par le futurologue de plus en plus exalté, je veux parler de Jeremy Rifkin qui a nommé ce moment-là et d'autres choses aussi, il a nommé d'autres dimensions dans ce titre-là de son livre qui s'appelait « L'âge de l'accès », mais nommé cette capacité d'accès, hein, cette capacité d'accès qui a imprimé, je le redis, jusqu'à aujourd'hui, notre représentation, pour parler rapidement, du numérique.
Et en fait, c'est le technopouvoir qui est un technocapitalisme qui repose sur le dogme de l'innovation permanente et la quête perpétuelle de profit. L'innovation permanente devient le doxa de ce nouvel univers technique, instaurant, entre guillemets, la destruction créatrice comme moteur de la croissance industrielle du numérique. Je reprends l'exemple des réseaux sociaux, notamment Instagram, qui multiplie les mises à jour où certaines fonctionnalités sont supprimées pour laisser place à d'autres. Par exemple, le 12 novembre 2020, le réseau social a décidé de déployer sa nouvelle version à tous. Pas de grands changements en apparence, mais deux retouches cruciales. Les onglets notifications et nouvelles publications ont été déplacés en haut de l'écran et remplacés par Shopping et Réel, le nouveau format de vidéo qui imite TikTok. Le réseau social alors illustre la façon dont les interfaces peuvent être conçues et mises à jour pour influencer les comportements de leurs utilisateurs, ce qui explique c'est un phénomène qu'explique le docteur en sciences connectives Harry Brignull lors de son intervention au Trade Commission DAC Pattern Workshop le 29 avril 2021. On pourrait aussi parler de la constante évolution de nos smartphones et la nécessité croissante d'en posséder un, très lointain d'une vision low-tech où nous réutilisons, recyclons et utilisons le strict minimum. Cette évolution a un impact. L'empreinte énergétique de nos smartphones n'a cessé d'augmenter. De plus, la durée de vie d'un smartphone n'est que de 22 mois en moyenne en France, selon une étude statistique de Kantar World Panel. Le principe fondateur de l'innovation permanente est l'un des piliers du capitalisme. Analysé par Schumpeter, il l'inscrit d'office dans ce modèle économique. Le technopouvoir s'avère être en définitive un technocapitalisme, car son but final est de faire des profits pour les dirigeants des entreprises et leurs actionnaires. La quête de profit se fait en marchandant toujours davantage les services de la vie quotidienne. On pourrait citer comme exemple les transports avec Blablacar ou encore Uber, mais aussi dans la cuisine avec les services de livraison très rapide qui ramènent les restaurants à la maison. Ces nouveaux services, qui étaient il y a moins de 5 ans juste des innovations, sont maintenant ancrés dans nos habitudes de vie. Et c'est dans cette nouvelle ordre que l'ingénieur informaticien, à son échelle, a un réel rôle à jouer dans l'évolution future du web.
Alors merci à toi de cette introduction au concept de technopouvoir. On a une question de Zoé qui demande si l'avènement du technopouvoir est inévitable. Alors, et on pourrait également compléter en se demandant s'il existe des solutions qui permettent d'échapper donc à ce technopouvoir du technocapitalisme. Je reprends les termes que je crois que tu as toi-même empruntés à Eric Sadin. Et donc on pourrait dire également à ce que l'on a abordé un petit peu depuis le début, c'est-à-dire est-ce que l'on peut échapper au pouvoir technique des géants du numérique et de ce qu'ils ont instauré sur nos vies, sans bien sûr pour autant renoncer au numérique et à utiliser des ordinateurs. Est-ce que c'est possible ?
C'est une question très intéressante et je pense que je suis capable d'y répondre maintenant grâce au cours de WE1, justement. Je pense qu'il y a une des solutions qui me vient directement en tête, c'est le fait divers pour fédération et univers. En fait, c'est une sorte de réseau connecté, un réseau de serveurs connectés entre eux qui, à l'instar d'Instagram, où on va devoir créer un compte et créer sa page qui va générer des données qui seront hébergées sur les serveurs d'Instagram. Du coup, on n'aura aucun contrôle dessus. Seuls les grands géants auront un contrôle sur nos données. grâce aux faits divers, on va pouvoir héberger notre propre compte avec des substituts Instagram. Par exemple, je pense à PixelFed, qui nous permet de créer un compte et une page qu'on va pouvoir héberger sur les serveurs de nos choix, même sur nos propres serveurs. Et en fait, les autres personnes vont pouvoir se connecter à nos serveurs. En fait, c'est vraiment un réseau de sites où ça va marcher, du coup, où les gens vont pouvoir voir nos publications, communiquer avec nous. Et pour moi, c'est une très bonne alternative pour ne pas être pris par ce technopouvoir et par cette recentralisation qui a été commencée par les grandes GAFAM. Et on va vers une, avec le fait divers, vers une décentralisation du web, justement, qui était à la base du web.
Ok, bah merci beaucoup à toi et en effet là pour cette petite introduction aux faits divers qui est une des pistes effectivement qui sont explorées aujourd'hui pour continuer de travailler en réseau tout en échappant, comme tu l'as très bien dit, à la centralisation. Alors je propose de passer à la troisième partie de votre exposé en passant la parole à Baptiste qui va nous parler de l'ingénieur en fait, hein, de l'ingénieur tel qu'il est vu je crois notamment par Hugues Chopelin, pardon. Tu vas nous parler un peu bricolage, mouvement, ce genre de choses. Je te laisse la main.
Oui, exactement. Du coup, pour expliciter un peu ce qu'a dit Elliot et essayer de vous démontrer que l'ingénieur est un acteur qui a une influence dans le monde du numérique, je vais m'appuyer du coup sur l'œuvre d'Hugues Chopelin, philosophe et aussi enseignant à l'UTC, qui s'intitule « L'ingénieur contemporain, le philosophe et le scientifique », paru en 2013. Du coup, ce livre a pour but de faire réfléchir le lecteur et notamment des futurs ingénieurs comme ceux présents autour de cette table, à la place de l'ingénieur d'aujourd'hui dans le monde contemporain. Du coup, la première partie sur laquelle j'aimerais m'avancer se focalisera sur la place de l'ingénieur évoluant dans le milieu du numérique. Un des grands axes du livre est de déterminer quelle est la place de l'ingénieur dans les organisations contemporaines. Un premier élément de réponse vient en se concentrant sur le dispositif sur lequel travaille l'ingénieur contemporain. Hugues Chopelin va alors évoquer le concept de dispositif socio-technique. Technique initialement, car la réalisation du dispositif va mobiliser les connaissances techniques de l'ingénieur pour réussir, et ensuite sociaux, car un ingénieur est amené à travailler avec une multitude d'acteurs différents au cours du processus de conception. Ramenons ce point du coup à l'ingénieur du numérique. Ce dernier doit bien avoir les connaissances techniques nécessaires en informatique pour travailler avec succès. Maintenant, si on s'intéresse au côté social, l'ingénieur est amené à interagir avec des acteurs de tout type, comme les clients et le public visé et d'autres acteurs. Donc ces acteurs, ils ont des rôles différents et des attentes très éloignées du dispositif et l'ingénieur doit prendre en compte toutes ces informations. C'est comme ça que l'ingénieur contemporain, et encore plus du coup dans le monde du numérique, de par la nécessité de collaborer avec des équipes et des interlocuteurs pluridisciplinaires, il est confronté à un environnement vaste et hétérogène qu'il doit appréhender et comprendre pour bien s'y intégrer. On parle alors de bricolage de l'hétérogène. Ensuite, Hugues Chopelin aborde aussi la notion de mouvement lorsqu'il décrit l'environnement de l'ingénieur. En effet, cette multitude d'acteurs provoque des changements qui peuvent être brusques et partiellement, voire totalement imprévisibles. Une fois cet environnement en mouvement analysé par l'ingénieur, capable de capter les attentes de chacun et les contraintes associées, il va pouvoir capitaliser sur cet environnement en extrayant le potentiel découlant des changements perçus. Et quel meilleur environnement que le numérique pour imaginer ces changements imprévisibles et sources d'opportunités que l'on peut décrire comme un support en constante évolution avec des règles qui sont modifiées en permanence. On pourrait prendre l'exemple de l'apparition des crypto-monnaies qui sont un sujet d'envergure du monde numérique d'aujourd'hui, pardon, dont le cours est imprévisible et les impacts sont très importants. Donc en se basant sur cet exemple, on peut affirmer que le numérique est un environnement dont les caractéristiques suivent celles énoncées par Hugues Chopelin. Un bon ingénieur contemporain doit pouvoir décrypter ce mouvement pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et sa place est donc essentielle. Du coup, j'aimerais maintenant vous faire passer un extrait d'une conseillère digitale chez Microsoft, Karine Peace, qui explique l'intérêt de digitaliser les marchés.
So digital transformation impacts business in several ways. I would say the first and most obvious way is that when you start investing in digital transformation, IT goes from being a cost to your organization into being something that is going to give you profit and it's going to show rewards. If you start investing in digital transformation and in applying algorithms to the data that you currently have, treating the data, you can have better reporting, you can have better visualization of your business, you can understand your business much better. So digital transformation is really looking at all the technologies and all the capabilities and implementing it to your business and then getting things back from it.
En anglais. Dans ce correcteur en anglais, du coup, on peut comprendre que la transformation digitale, donc le fait de faire passer un marché sur le numérique, c'est une source d'opportunité car elle demande de prendre des risques en investissant du temps et de l'argent, et en contrepartie, elle peut apporter des bénéfices importants, à savoir une meilleure rentabilité et une vision globale de l'affaire accrue. C'est donc un bon exemple pour imaginer l'opportunité générée par le numérique et les bénéfices potentiels d'un dispositif mis en place. Donc dans cette deuxième partie, je vais encore une fois m'appuyer sur le livre de M. Chopin pour caractériser la réponse de l'ingénieur du numérique et les responsabilités associées que ce dernier endosse. Donc dans l'œuvre d'Hugues Chopin, la réponse d'un ingénieur à une problématique se doit être innovante et vigilante. Innovante dans un premier temps car il va pouvoir faire fructifier le potentiel décrypté comme je l'ai déjà décrit dans la première partie. Vigilante dans un second temps car la réponse au problème va forcément avoir un impact sur l'environnement en bien ou en mal. Comme annoncé précédemment, l'environnement numérique est en perpétuel mouvement et un dispositif innovant va catalyser ce mouvement. On peut citer un bon nombre d'exemples dans l'histoire du numérique, l'apparition des réseaux sociaux qui changent notre manière de communiquer, ou encore une fois, l'apparition des crypto-monnaies qui entraînent la multiplication des machines destinées au minage. Ces changements ont des conséquences, bonnes évidemment, mais aussi mauvaises, comme l'impact écologique engendré. Ce pouvoir de création sur le numérique, qui est conféré à l'ingénieur, implique des responsabilités qu'il doit considérer avant d'agir. Il doit être capable, du coup, d'anticiper les conséquences possibles sur les sociétés ou l'écologie que peut engendrer son dispositif. Mais cette anticipation est souvent confrontée à des limites. Par exemple, aurait-on pu prévoir la numérisation d'œuvres cinématographiques et télévisuelles ouvrirait un catalogue de streaming illégal contre lequel il est difficile de lutter encore aujourd'hui, puis une offre légale états-unienne dominant le marché et in fine reconfigurant l'ensemble de la production. Donc, par conséquent, Hugues Chopin annonce que l'ingénieur ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais il doit prévoir qu'il va bien se passer quelque chose lorsqu'il apportera sa réponse. Il se doit alors d'anticiper et de préparer l'ensemble du collectif du projet à l'imprévisible. Cette capacité d'adaptation par l'ingénieur peut amener à adopter un pilotage du projet comme l'entendent les méthodes agiles.
Alors en terminant sur les méthodes agiles et sans expliquer comment elles fonctionnent, Baptiste, tu m'obliges à te demander de nous en dire plus sur ce sujet, c'était peut-être malin de ta part. On a adopté en WE1 un fonctionnement inspiré hein, de l'agile, enfin adapté on va dire à notre contexte, donc tu l'as expérimenté un petit peu, on en a parlé un petit peu en cours, tu nous fais un petit résumé pour ceux qui découvrent de la façon dont fonctionne cette méthode, peut-être de ses principes principaux.
Eh bien, déjà, les méthodes agiles, c'est né des problèmes que la méthodologie classique n'arrivait pas à résoudre. Et du coup, en découle une organisation plutôt horizontale entre les différents acteurs, comme dans notre groupe de WE1, quatre étudiants qui, a priori, ont les mêmes compétences en partant dans l'UV. Et du coup, ça implique la communication peut-être beaucoup moins formelle entre les participants pour avancer dans le projet, qui d'ailleurs, du coup, ne sera pas une planification simple, mais plutôt un pilotage qui sera réalisé en différentes itérations. Par exemple, en WE1, on avait une itération par semaine pour avancer et continuer à construire le projet comme cela. Et d'ailleurs, c'est de ça un peu que parle Hugues Chopin quand il parle de bricolage de l'hétérogène. C'est donc réussir à mettre en relation les différents acteurs et en saisir que chacun puisse donner ses informations pour continuer à avancer dans le projet ensemble.
Ah ouais, donc effectivement, tu as mentionné quelques aspects importants hein, dans les méthodes agiles, comme bien organiser la communication, puisque justement il y a de l'incertitude et qu'on peut pas tout prévoir, et bien il va falloir réguler. Donc pour ça, faut communiquer. Tu as parlé également de planification pilotage. Alors si on complète un tout petit peu, c'est l'idée d'un projet classique, hein, c'est qu'on va planifier, donc justement on va prévoir ce qui va se passer à chaque étape, etc. Sauf que comme tu nous as dit qu'on était dans un contexte incertain et qu'il allait se passer plein de trucs pas prévus, bah si on a tout planifié, à un moment, ça ne va pas aller. Quoi. Si on a prévu de tourner à droite, à gauche, mais qu'il n'y a pas de virage, on va sortir de la route, on va prendre un mur. Et donc, effectivement, je continue sur l'analogie que tu as pris. Du coup, il va falloir piloter, c'est-à-dire s'adapter au fur et à mesure. Alors, néanmoins, il y a des contraintes. Par exemple, là, on devait passer aujourd'hui. Et donc, il faut bien, à un moment quand même, qu'on contienne un certain nombre de contraintes externes. Eh bien, merci pour cette troisième partie. Et donc, Chloé, si tu es prête, eh bien, je vais te passer la main pour la dernière partie, en mode de conclusion. Et tu vas nous parler des questions, de l'articulation entre des questions techniques et éthiques. Je te laisse la main, c'est parti.
Est-ce que des objets, notamment des objets techniques, des outils, peuvent être moraux? Et si oui, comment les rendre moraux? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Donc les outils structurent nos vies avec des conséquences à la fois cognitives, politiques, sociales ou économiques, comme en ont parlé mes collègues. D'abord, notre usage des techniques peut bien sûr être jugé à la fois moralement et légalement. Il est permis d'utiliser un couteau en cuisine, par exemple, mais d'autres usages de ce même outil peuvent vous causer de nombreux problèmes. Cependant, le lien entre la technique et la morale peut être pensé à un autre niveau que celui simplement des usages. Xavier Guchet, philosophe au laboratoire Costec sur le thème de l'éthique des techniques, propose de considérer les objets techniques comme des agents moraux. En effet, de nombreuses machines possèdent une autonomie et deviennent des decision makers. On peut citer en sens l'exemple des voitures autonomes ou encore du trading haute fréquence, qui consiste à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers, sans intervention humaine, à l'aide d'algorithmes. Les objets techniques sont porteurs d'une norme qui leur est propre, et agissent sur le monde soit par une action directe, soit par le fait qu'ils rendent possible certains usages ou non. Mais une posture purement légale de la régulation des techniques n'est pas suffisante pour plusieurs raisons. Premièrement, la justice exige un temps long qui ne convient pas aux évolutions techniques rapides, par exemple du web. Et en plus de cette limite de rapidité, il y a aussi un problème géographique avec des objets techniques mondialisés et des autorités locales qui ont donc peu de pouvoir parfois. Il conviendrait donc que d'autres acteurs, et en particulier les ingénieurs, adopte une pensée critique vis-à-vis des conséquences sociétales, cognitives et autres contenues dans le design même des techniques. Mais alors comment imaginer des techniques à impact sociétaux positif? Nous allons tout de suite écouter un extrait d'une conférence de Xavier Guchet sur l'agentivité morale des artefacts techniques lors du séminaire Costec de 2016 qui introduit cette question.
Premièrement, dans ce champ de recherche concerne d'abord, les désaccords entre les éthiciens sur les principes, sur les standards que doivent suivre les agents moraux. Donc, quel type de théorie morale faut-il implémenter dans les machines? Et cela soulève également des défis techniques touchant les limites computationnelles à l'implémentation de ces théories morales, avec évidemment des questions cruciales à la clé, dont j'ai listé un certain nombre, les principales en tout cas. Comment automatiser un raisonnement moral? Qu'est-ce que ça signifie? Par ailleurs, est-ce que le simple fait d'appliquer des standards, de suivre des principes moraux, suffit à faire d'une machine agent moral? Est-ce qu'il ne faut pas, pour être un agent moral, avoir aussi une conscience, une capacité de connaître ce que l'on fait, par exemple en explicitant les normes que l'on suit pour prendre une décision? Et par ailleurs, une question cruciale qui a suscité énormément de littérature, comme le fait Kant, la définition du sujet moral suppose la liberté, donc la capacité de ne pas suivre les règles, de ne pas suivre les principes et donc de se comporter immoralement. Alors faut-il, pour construire un agent moral artificiel, envisager que celui-ci puisse ne pas suivre les principes qui ont été implémentés, intentionnellement se comporter à rebours de ces principes? Donc évidemment...
Sur les valeurs à privilégier, typiquement la liberté d'expression doit-elle primer lors du design d'un média social? Le philosophe de la morale James Moore, pionnier dans le domaine de l'éthique des ordinateurs, distingue au début des années 2000 quatre types de machines dites morales. Premièrement, le plus bas niveau, les agents à impact éthique qui ont des conséquences éthiques sur le monde sans nécessairement que ce soit intentionnel. Ça concerne toutes les machines qui peuvent également être des agents à impact non éthique, délétère, selon les circonstances. Ensuite, le plus haut niveau, les full ethical agents avec une conscience, une capacité de raisonnement moral, voire la capacité d'expliciter ce raisonnement, donc des caractéristiques qu'on va attribuer à des êtres humains. Entre les deux, on va trouver les agents moraux explicites, pour lesquels les règles sont clairement dictées, et les agents moraux implicites, pour lesquels les maximes éthiques ne sont donc pas explicites, mais dont le design de la structure, les fonctions, incitent à un comportement éthique. Pour donner un exemple, un robot mou fait de tubes en plastique pneumatique comporte implicitement dans sa structure même la valeur de ne pas blesser un humain. Et au contraire, un robot armé dans laquelle cette règle aurait été implémentée explicitement fait partie de la seconde catégorie, donc des agents moraux explicites. On voit donc que le design implique directement la moralité de l'objet technique et l'ingénieur joue ici un rôle clé. Xavier Guchet, notamment dans ses cours à l'UTC Penser la technique et éthique approche pluridisciplinaire, propose certains principes inspirés de l'éthique du CARE à respecter lors du design de dispositifs techniques que je résume ici. Premièrement, la recherche de la connaissance des causes, donc ne pas s'arrêter à la gestion de symptômes mais étudier les sources de phénomènes pour mieux les contrôler. Deuxièmement, l'adéquation avec les processus et les normes vitales. Donc, il prend ici pour exemple un chirurgien qui traiterait un organe comme une pièce détachée du corps sans prendre en compte l'unité du corps qui n'est pas qu'une somme de parties indépendantes. Il doit y avoir un respect de la manière dont s'organise l'organisme sur lequel la technique agit. Troisièmement, le respect de l'autonomie de l'utilisateur. Le fait que la technique, l'usage de la technique ne retire pas son autonomie, ses savoir-faire et soit émancipateur et non pas asservissant. Et quatrièmement, la transparence sur le fonctionnement vis-à-vis de l'utilisateur. On a notamment parlé plus tôt de Parcoursup. L'opacité de l'algorithme est un gros problème pour ces utilisateurs qui ne savent pas comment leur dossier est géré et classé, ce qui crée beaucoup de souffrance au vu de l'importance de l'enjeu. Et donc ces règles peuvent guider l'ingénieur dans la conception d'objets techniques qui prennent soin de leurs utilisateurs.
Merci beaucoup à toi pour cette dernière partie. Je vais relayer la question et peut-être compléter la question de Jonathan, parce qu'en fait, tu as déjà commencé à y répondre. Jonathan nous demande si on pourrait imaginer une charte éthique pour les ingénieurs en informatique, afin qu'ils prennent leurs responsabilités dans la mise au point justement des systèmes informatiques. Alors je crois que tu as quelque part déjà donné une partie de la réponse avec les quatre principes de la robotique en quelque sorte que tu nous proposes là, inspirés des cours de Xavier Guchet. Est-ce que tu as connaissance que au-delà de ces principes, eh bien justement ça a donné lieu à des chartes en tant que telles. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des milieux, notamment dans le domaine de l'informatique, après tu as peut-être des exemples ailleurs, hein, dans lesquels il y a une explicitation des règles à destination des ingénieurs, des chercheurs, qui les obligent en quelque sorte, je reprends les termes que tu as donnés, hein, mais par exemple, enfin voilà, à chercher des adéquations avec les normes vitales, à respecter l'autonomie de l'utilisateur. Quand tu parles de transparence, par exemple, sur le fonctionnement, si on pense en informatique, ça implique typiquement un des principes qu'on a dans le logiciel libre, c'est-à-dire l'obligation de pouvoir lire le code. Hein. On ne peut pas analyser un programme de façon transparente si on n'a pas la possibilité d'analyser le code. Est-ce que tu as des cas, des éléments dans lesquels concrètement ces principes ont vraiment été traduits jusqu'en charte éthique?
Ça a un sens un peu dans la continuité du déontologisme en médecine. J'ai pas d'exemple de charte dans le domaine du numérique. Et puis il y a aussi peut-être la loi qui peut avoir un rôle de charte à respecter pour un ingénieur dans un contexte donné. Un petit problème que j'ai avec la notion d'une charte éthique qu'on imposerait aux ingénieurs, c'est le fait que dans une grande partie des conceptions de l'éthique, c'est le processus de réflexion qui est important. Et l'autonomie dans le choix d'un comportement ou un autre. Ce qu'on ne trouve pas dans la charte, qui peut avoir un côté un peu abrutissant. On suit un certain nombre de règles, alors que finalement, peut-être que la solution, elle est plutôt dans l'éducation. À l'UTC, c'est bien fait, par exemple, des principes philosophiques, éthique autour de la technique, du rôle de l'ingénieur dans la société, même de l'histoire des sciences et de la connaissance. C'est peut-être plus la solution que l'imposition d'une charte aux ingénieurs, en mon sens, même si les deux ne sont pas du tout contradictoires.
Eh ben, merci beaucoup à toi. Et puis, je vais te laisser donc sur ces derniers mots. Si à l'UTC, c'est bien fait, c'est parfait. Je vous remercie tous les quatre. Je vous dis au revoir. Et puis, normalement, on se revoit encore un petit peu en cours avant la fin de l'année. Au revoir à vous.
Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC, avec les étudiants de WE01.